Chapitre 78. Saga tremble de tout son corps lorsqu'elle traverse la cage d'escalier et sort par la porte arrière. Un homme maigre à la veste froissée fume devant un des immeubles intérieurs. « Je cherche un petit chat malicieux ?» demande-t-il. « Oui, » répond-elle. Et elle saute par-dessus la clôture de la cour voisine. Elle la traverse, escalade un vélo appuyé contre un mur, passe par-dessus, atterrit sur une pelouse avec quelques meubles de jardin en bois, continue jusqu'à une clôture basse, la franchit, passe devant des framboisiers dans la cour suivante où trois filles sautent à l'élastique. Saga s'arrête un instant pour vomir dans un collecteur d'eau pluviale posé sous un tuyau. Les filles s'arrêtent et la regardent s'éloigner vers une clôture rouge. Elle s'écorche le ventre en passant de l'autre côté. Saga était consciente du risque qu'un dispositif important soit mis en place. C'est la raison pour laquelle elle a envoyé Karl. Mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il tirerait. Les tireurs d'élite ne sont là que pour sécuriser au cas où l'opération tournerait mal, au cas où il y aurait une prise d'otage. Mais là, il s'agissait d'une exécution. Elle traverse une nouvelle cour bitumée avec une buanderie extérieure, se hisse au-dessus d'une clôture et atterrit dans une cour surélevée. Sur une petite terrasse en bois, elle voit un barbecue et des meubles en plastique décolorés. Saga colle la table contre le mur de séparation, le franchit et arrive dans une cour ombragée. Elle saute dans l'herbe humide, perd l'équilibre et tombe dans un buisson, puis elle se relève aussitôt pour reprendre sa course. Le vrombissement des hélicoptères se fait à présent plus lointain. Sa cheville droite lui fait mal et son estomac se serre à cause de l'angoisse. Elle avance en boitant, ouvre une porte en acier et pénètre dans une grande cage d'escalier datant de la fin du XVIIIe siècle avec des murs en marbre vert et un tapis rouge. Elle avance rapidement jusqu'à une porte en bois sombre aux vitres polies qui donne sur la rue, pose la main sur la poignée, mais recule aussitôt d'un pas. Un quart de police passe dans la rue à vive allure. Saga attend quelques secondes, puis ouvre doucement la porte et regarde à l'extérieur. Elle comprend qu'elle a franchi le barrage. À droite, la rue est bloquée par des voitures de police. Elle voit le dos des agents, leurs gilets pare-balles et leurs armes. Elle sort, tourne immédiatement à gauche et marche tranquillement le long du trottoir. Six rues plus loin s'élèvent les tours couleur sable de Nora Tornen. Une voiture de police s'approche, sans sirène ni gyrophare. La fenêtre de la portière du conducteur est baissée et une main tenant une cigarette électronique en dépasse. Elle se place dans l'embrasure d'une porte, dos à la rue, prend son sac et fait semblant de chercher ses clés. À travers la vitre en losange, elle aperçoit une femme âgée dans la cage d'escalier qui se dirige vers la sortie. La voiture de police arrive lentement et s'arrête juste derrière Saga. Les policiers sont en communication sur le réseau Raquel. Elle entend qu'ils reçoivent un nouvel ordre de tirer. La porte s'ouvre et Saga doit reculer pour laisser passer la vieille dame. La voiture de police continue de rouler en faisant crisser ses pneus. La dame la regarde avec étonnement. Saga se détourne et se hâte vers le carrefour. Les sirènes retentissent au loin. Des gens sont en train de déjeuner sur les terrasses. Sur la droite, juste après la file d'attente devant chez Günther, sont garées cinq voitures de police. Dans la lumière bleutée qui balaie l'horizon, elle voit qu'ils placent des tapis à pointe en travers de la route. Des passants se sont arrêtés pour filmer l'opération avec leur portable. Un policier en uniforme leur demande de reculer et installe des barrières. Le bruit d'un hélicoptère résonne entre les immeubles. Saga tourne à gauche et s'éloigne rapidement du barrage. Elle s'efforce de ne pas courir. D'autres sirènes hurlent derrière elle. Elle s'approche d'un échafaudage devant un immeuble. Un camion équipé d'un élévateur descend une énorme charge de plaques de plâtre sur le trottoir, puis déploie des pieds de soutien. Saga regarde autour d'elle. Elle voit un hélicoptère avec à son bord un tireur d'élite planer au-dessus d'un toit, puis prendre de l'altitude. Le camion démarre. Saga court vers lui, monte sur la plateforme et se cache sous une bâche en plastique grise. Le véhicule s'éloigne lentement du barrage, puis ralentit et tourne à l'angle de la rue. Saga se glisse au bord du camion et saute sur le bitume. Elle atterrit maladroitement et se blesse de nouveau la cheville. Elle rejoint rapidement le trottoir, s'arrête sous l'un des grands arbres qui bordent la rue, brosse ses vêtements avec ses mains afin d'enlever la poussière de plâtre, et se remet en marche. La circulation est dense sur l'échangeur de l'autoroute et sur les viaducs en direction de Solna. Un bruit sec, suivi de bris de verre, fait sursauter Saga. Elle sent une tension dans son cou lorsqu'elle se retourne. Un homme d'un certain âge est en train de déposer des bouteilles vides dans un conteneur à recyclage. Elle s'approche de la façade de la station Nora Stationskatan, lorsqu'un policier en uniforme sort d'un magasin situé à une dizaine de mètres de là et regarde dans sa direction. Derrière lui, la clochette du magasin tinte. Saga baisse la tête, se tourne calmement vers l'entrée d'un atelier de réparation, mais du coin de l'œil, elle voit la main du policier glisser vers son pistolet de service. D'un geste rapide, elle sort son Glock 17 de son holster, tourne sur elle-même, le vise et tire. Son coude et son épaule encaissent le recul. La balle traverse le muscle de la cuisse du policier. Du sang et des fragments d'eau arrosent le sol derrière lui. L'écho de la détonation se répercute entre les bâtiments. Saga se précipite vers lui. Le policier tombe sur son épaule en hurlant de douleur. Une couronne en or brille dans sa bouche ouverte. « S'il vous plaît, ne me tuez pas !» allait-il, en pressant une main contre la blessure. Du sang s'écoule entre ses doigts. Une flaque commence à s'étendre sous lui. Saga saisit rapidement l'arme de service de son étui ouvert et la balance sous une camionnette en stationnement. Pile au moment où elle tend la main pour attraper sa radio, la sonnette de la boutique retentit à nouveau. Réagissant à la vitesse de l'éclair, Saga se retourne et traverse la rue. Une voiture fait un écart et klaxonne longuement. Derrière elle, un coup de semon s'est tiré en l'air. Elle court, le dos courbé. Le sol tremble sous ses pieds lorsqu'un bus passe. Un bruit sourd et violent retentit, des freins crissent et un homme est projeté en avant. Il heurte le bitume et roule sur le côté. Une voiture arrivant en sens inverse lui roule dessus. Du sang gicle sur le macadam. C'est l'autre policier qui a été renversé. La voiture freine, dérape et tourne sur elle-même. Saga continue de courir quand elle entend une nouvelle détonation. Puis le bruit de la tôle qui se comprime, des vitres qui se brisent et pleuvent sur la chaussée. Elle laisse tomber la radio connectée à Raquel et range son Glock en courant aussi vite qu'elle le peut le long de Tom Tebodavegen. Son taux d'adrénaline est si élevé que ses oreilles sifflent. Elle se précipite sur le pont qui enjambe Clara Strandsleden, en direction du campus de l'Institut Karolinska. Les viaducs incurvés des autoroutes cachent le soleil au-dessus d'elle comme d'immenses auvents. Elle perçoit au loin les sirènes des véhicules d'urgence. Elle longe la rambarde en acier sale. Alors qu'elle s'approche de la culée du pont de l'autre côté, elle voit une lumière bleue balayer une façade de briques devant elle. Elle fait brusquement demi-tour, recule de 10 mètres, saute par-dessus la rambarde d'acier et atterrit à pieds joints sur une pente abrupte et sablonneuse. Les restes d'un vieil escalier en bois cèdent sous son poids et Saga est entraînée dans le mouvement, tombe sur le dos et se cogne l'arrière de la tête. Elle glisse dans les herbes hautes et les débris mais est finalement arrêtée par une clôture rouillée en haut de la pente menant aux voies ferrées. Elle se relève et court sous le pont. Du sang s'écoule de l'arrière de sa tête jusqu'à son cou. À bout de souffle, elle se colle contre les fondations. 3 voitures de police, sirènes allumées, passent au-dessus d'elle. L'endroit empeste les ordures et le sol est jonché de mégots de cigarettes, de canettes vides et de bouteilles d'aérosol. D'énormes piliers s'élèvent partout autour d'elle comme des troncs d'arbres pâles. De la poussière flotte dans les quelques rayons de soleil qui se fraient un chemin dans cette forêt de béton. Un flot continu de véhicules sort du tunnel en contrebas. Un hélicoptère se rapproche. Saga continue à descendre la pente. Les restes d'une table cassée gisent dans le gros gravier autour de blocs d'agglomérés. Elle n'a pas le choix. Pourtant, elle hésite une seconde avant de s'engouffrer dans le tunnel routier. Elle longe l'étroite bande sur le bord gauche de la chaussée. L'appel d'air provoqué par les voitures qui la frôlent à grande vitesse soulève ses cheveux. Un camion klaxonne et elle se colle à la paroi du tunnel lorsqu'il passe en trombe. Du sable lui fouette le visage en tourbillonnant. Elle tousse et crache, puis continue sa progression et ne s'arrête que lorsqu'elle retrouve la lumière du jour. Elle a franchi la première étape. 50 mètres plus loin, une dizaine de voies convergent dans de nouveaux tunnels sous un gratte-ciel rutilant. L'ombre d'un hélicoptère balaie le flot rapide de la circulation. Le grondement du rotor principal s'amplifie, résonne dans sa poitrine, puis s'estompe. Elle attend quelques secondes, avant de s'élancer sur le bas-côté aussi vite qu'elle le peut, et de disparaître dans le tunnel suivant.